Il est 6h01 à la météo. Aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. 30% de risque d'averse en après-midi. Il y a aussi un léger risque d'orage, 27 degrés au maximum. Ce soir et cette nuit, à peu près le même scénario, mais il va faire 16. Et pour demain samedi, c'est une magnifique journée, du soleil toute la journée. Avec un maximum de 28 degrés, pas très humide. Là, l'humidex va monter à 32, donc c'est très, très, très acceptable. Mais ça va devenir humide au cours de la nuit parce qu'on prévoit des averses dans la nuit de samedi à dimanche avec 17 degrés. Puis dimanche, là, c'est des averses avec 26. Mais à compter de lundi, ça tourne au soleil. Soleil avec un maximum de 27 pour lundi, à peu près le même scénario pour mercredi ainsi que jeudi, 25 degrés. Alors, ce sera un beau début de semaine prochaine, puis une relative belle fin de semaine. Il fait 17 en ce moment à Montréal. Bon, dans les différents quotidiens, on parle beaucoup de la campagne de vaccination qui connaît un ralentissement, là, faut bien le mentionner, mais il y a des statistiques qui ont été dévoilées hier par Santé Québec sur justement les nouveaux cas de COVID-19. Et ça tend à démontrer que, encore une fois, ce sont les gens qui sont moins vaccinés ou pas totalement vaccinés qui sont les plus susceptibles d'être atteints de la COVID. La tendance, donc, se confirme sur les... Attendez, puisque je vous donne... en date du 17 juillet, sur les 8000 cas d'infection confirmés en 8 semaines, 98% des patients n'étaient pas doublement vaccinés. Plus des trois quarts de ces personnes n'étaient pas encore vaccinées ou avaient reçu leur première dose de vaccin moins de 14 jours avant. Donc, c'était des nouveaux vaccinés. Donc, la protection n'était pas optimale à ce moment-là. 22% des Québécois qui ont contracté le virus pendant la même période avaient reçu leur première injection depuis plus de 2 semaines. Alors, si on limite le recul à 4 semaines, on retrouve 95% des nouveaux cas parmi les Québécois qui n'étaient pas adéquatement vaccinés. Alors, ça tend à démontrer l'importance de la vaccination. D'ailleurs, Christian Dubé, hier, qui est supposé d'être en vacances, mais qui visiblement continue à suivre les statistiques, a dit sur Twitter, et je le cite, « Ces chiffres sont frappants. Ils démontrent toute l'importance d'aller se faire vacciner à 2 doses dès maintenant. » Alors, le bilan quotidien, là, au Québec, faisait état hier de 99 nouvelles infections. Et ce qu'on note aussi, c'est que le nouveau variant est plus actif depuis quelques jours. On était à 5% il y a quelques jours. On est maintenant rendu à 12% des nouvelles infections qui sont liées à ce nouveau variant Delta. Et quand on regarde dans la ville de Montréal, bien, l'ouest de l'île est bien vacciné. Là, la vaccination va bon train, mais dans le nord de la ville, c'est là que c'est moins rose. Sainte-Ville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Kirkland affichent les plus hauts taux de vaccination avec au moins une dose. Dans ce coin-là, ça va relativement bien. Mais au bas du classement, on retrouve Montréal-Nord, Saint-Léonard et aussi, ça c'est plus étonnant, Outremont, selon ce qu'on peut lire dans la compilation faite par le journal La Presse. Et ce qu'on explique, c'est que ce sont les facteurs socio-démographiques qui ont fait de Montréal-Nord et de Saint-Léonard des points chauds de la pandémie. Et ça explique également le retard de la vaccination, dit-on. Seulement 58,9% de la population là-bas, tous âges confondus, avait reçu une dose à Montréal-Nord et 61,3% à Saint-Léonard. Alors, on est loin là des taux de 75% en moyenne là qu'on peut retrouver dans la population. Les 12+, là, c'est, je pense, on est même rendu pour la première dose à plus de 80%. La vaccination de proximité serait la solution. Il semble que si on veut vraiment, selon les personnes qui ont été consultées là dans ces quartiers-là, si on veut toucher les gens et essayer d'augmenter le taux de vaccination, il faut faire en sorte d'avoir, par exemple, des journées de vaccination sans rendez-vous qui pourraient simplifier la chose, là, la procédure. Dans Outremont, 60% de la population est au moins partiellement vaccinée. C'est un retard qui est un peu plus difficile à expliquer, peut-on y lire. Mais on note des hausses de cas chez les jeunes et le fameux variant Delta qui menace. Le nombre de cas de COVID-19 augmente chez les jeunes dans la vingtaine. La hausse est de 72% dans cette tranche d'âge en seulement une semaine. Et les jeunes dans la vingtaine demeurent à ce jour les moins vaccinés. Alors, ça tend à démontrer que ces statistiques-là là, de vaccination sont importantes. Aujourd'hui, 12% des cas de COVID-19 recensés au Québec sont dus à ce variant Delta. Et là, il y a des dans la Gazette ce matin, il y a des spécialistes de la santé, des épidémiologistes qui ont été consultés par la Gazette, qui commencent à penser que le fameux 75% qui a été ciblé par le ministère de la Santé pour le taux de vaccination optimal, là, bien, ce serait peut-être pas suffisant, selon plusieurs experts qui ont été consultés. Si on veut avoir une bonne protection communautaire, ben, il faudrait peut-être atteindre des taux plus élevés chez les 12 ans et plus. En date de jeudi, 82 % des Québécois de 12 ans et plus avaient reçu leur première dose. C'est 56 % qui sont pleinement vaccinés. Alors, si on veut atteindre le fameux 75 % de deuxième dose, il faudrait que 1,4 million de Québécois reçoivent la deuxième dose d'ici le 31 août. Alors, le temps commence à presser. D'ailleurs, M. Dubé réitère toujours qu'il faut aller assez rapidement, demande à ce qu'on le fasse vite, parce que c'est pas juste le fait d'être vacciné. Il faut aussi attendre que les deux doses, en réalité, commencent à donner leur effet pour faire en sorte d'être bien protégé. Et vous savez, au Royaume-Uni, on a atteint ce qu'on a appelé le Freedom Day. C'était cette semaine où on a enlevé à peu près toutes les contraintes sanitaires. Mais là, il y a un effet qui est ressenti dans la population. Parce que, bon, souvenez-vous la fameuse application là, qu'on nous avait demandé de télécharger. Moi, je l'ai dans mon téléphone. Cette application-là s'appelle, attendez que je la retrouve, là, Alerte COVID. Tu sais, on a téléchargé ça, puis on l'a... la mienne est active, là. Puis c'est censé vous alerter si jamais vous êtes en contact, vous avez été à proximité d'une personne qui était atteinte de la COVID. Moi, je n'ai jamais reçu de notification de ça depuis le temps que je l'ai sur mon téléphone. Ça fait des mois. Or, en Grande-Bretagne, ça commence à s'activer. Ils ont une application qui est semblable. Et 4 jours après avoir levé justement les dernières mesures de confinement, ben, on se retrouve avec un autre problème sur les bras qui s'appelle la pingdémie. Parce que le variant Delta fait des ravages là-bas. Il y a près de 2 millions de personnes qui ont dû se reconfiner pendant 10 jours depuis le mois de juin parce qu'ils sont infectés par ce variant Delta. Et là, ben, ils reçoivent des notifications parce que comme il y a beaucoup de gens dans la population, ben là, ils reçoivent les notifications sur leur téléphone. Alors, puis là, la notification là-bas, elle dit « Isolez-vous, vous avez été en contact avec une personne qui avait la COVID. » Alors, les gens s'isolent. Mais là, tu sais, des fois, t'es mieux de te fermer les yeux que de voir la réalité, là. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui veut rien voir, dit-on, selon le fameux dicton. Alors, les gens ont commencé à trouver ça tannant parce que là, ils veulent pas recevoir le fameux ping. Parce qu'ils veulent pas s'isoler. Alors, il y a un mouvement qui est en train de se répandre en Grande-Bretagne avec le hashtag « Delete the app ». Alors, il y a un mouvement qui dit aux gens... C'est bien simple, si vous voulez pas vous recevoir le fameux ping, vous avez juste enlevé l'application sur vos téléphones, vous n'aurez pas de notification, même si vous êtes en contact avec des gens qui ont la COVID. Alors, selon la BBC, il y a plus de 26 millions de personnes qui avaient téléchargé l'application qui s'appelle NHS COVID de façon volontaire depuis son introduction l'automne dernier. Et en raison des répercussions que ça a, parce que là, le problème, c'est que comme il y a 2 millions de personnes qui se sont isolées après avoir reçu les pings, ben il y a un problème de main-d'œuvre. Parce qu'il y a des commerces maintenant qui sont contraints de fermer ou encore de réduire leurs heures d'ouverture parce qu'ils commencent à manquer de personnel pour travailler. Alors là, c'est ce fameux phénomène là-bas là, qui est amené par le fait qu'on a abaisser la garde, bien, ça fait en sorte maintenant qu'il y a une résurgence de cas et donc de plus en plus de gens qui reçoivent des notifications. Bon, on connaît tous l'application, ben, en fait, le site Internet Wikipédia, qui est une espèce, qui est une encyclopédie en ligne où on retrouve plein d'informations qui, au départ, c'était pas très fiable, mais là, c'est évidemment, il faut faire une deuxième vérification bien souvent, mais il y a des informations là-dessus qui sont intéressantes. La plateforme fait en sorte que c'est une plateforme qui peut être alimentée par les gens. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter un détail sur une page Wikipédia que vous consultez, puis vous remarquez qu'il manque un détail, vous pouvez l'ajouter. Bien, il y a un homme, un professeur de Québec à la retraite qui s'appelle Marc Simard, qui est un professeur spécialiste de l'histoire de l'Europe contemporaine qui a pris sa retraite il y a quelques années. Lui, il y a quelqu'un qui avait fait une page Wikipédia à son nom. Et puis, au cours des derniers jours, des dernières semaines, la page Wikipédia s'est enrichie. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était mort, qui a écrit que Marc Simard était décédé, était mort. Or, il n'est pas mort. Alors, lui, il a voulu modifier la page pour dire, ben là, je suis pas mort. C'est plate, là, quand qu'on dise que je suis mort, quand je suis encore vivant. Et puis, on lui a refusé l'accès. On lui a demandé de prouver qu'il était bel et bien vivant. Alors, le gars veut modifier la page à son nom qui a été faite par un inconnu. C'est pas lui qui a fait la page. La page dit qu'il est mort. Puis il dit, ben non, je suis pas mort. Je suis encore bien en vie. Alors, il essaie de modifier la page. Puis Wikipédia, il dit, ben prouve-le que t'es vivant. Alors, des fois, il y a des limites, n'est-ce pas, dans ce type d'opération. Je trouvais ça cocasse ce matin. C'est dans le journal Le Soleil à Québec qu'on retrouve cet article. Et bon, évidemment, la sécheresse dont on parle beaucoup dans l'Ouest canadien, parce que là, il y a énormément de brasiers qui entraînent des évacuations supplémentaires, des incendies qui ont été attisés par les vents violents qui ont entraîné jeudi l'évacuation de centaines de résidents de plusieurs régions de la Colombie-Britannique. On va y aller d'ailleurs un peu plus tard dans cette région, notamment dans la vallée de l'Okanagan, où les incendies menacent les nombreux vignobles qu'on retrouve là-bas. Eh bien, il y a 4000 propriétaires là-bas qui ont reçu des avis d'évacuation, de se préparer à des évacuations. Et parmi les incendies auxquels s'attaquent les pompiers là-bas, ben, celui qui a détruit le village de Lytton, il y a trois semaines, ben, maintenant menace la communauté de Spencer's Bridge. Alors, c'est le même incendie qui continue à faire des ravages. La fumée est omniprésente en Colombie-Britannique en ce moment. Il y a des nouvelles positives. Cependant, dans la vallée de l'Okanagan, le feu qui a carbonisé plus de 20 km² de brousse est en ralentissement, de sorte que certaines communautés, notamment Osoyoos, a partiellement levé un ordre d'évacuation là-bas dans la communauté autochtone du secteur. Ça a permis à 176 propriétaires de rentrer chez eux jusqu'à nouvel ordre. Et les incendies brûlent. Il y a 270 incendies qui brûlent en Colombie-Britannique en ce moment. Tout ça en raison de cette espèce de dôme de chaleur et de sécheresse qui touche l'ensemble de l'Ouest canadien et qui va avoir des répercussions jusque dans votre assiette, selon ce que nous apprend Sylvain Charlebois, qui professeur à l'Université Dalhousie, professeur en consommation à l'Université Dalhousie, à qui on parle souvent sur nos ondes, parce que dans le secteur du Manitoba, on est frappé par une sécheresse extrême qui brûle littéralement les pieds, surpieds, c'est-à-dire les cultures dans l'Ouest. Vous savez que c'est un peu comme le grenier du Canada, cette région-là où pousse le blé, entre autres choses, qui sert à faire le pain chez nous. Comme le blé est plus rare cette année parce qu'il fait très chaud puis ça pousse moins bien, ben les prix sont à la hausse. Et comme les prix sont à la hausse pour le blé, ben ça va entraîner un prix à la hausse aussi des produits dérivés du blé, notamment le pain. Mais il y a d'autres types de cultures aussi qui sont touchées parce que comme les plantes, le fourrage pour des animaux se fait rare, ben ça devient de plus en plus cher à acheter pour nourrir les bêtes. Donc, le kilo de poulet a déjà augmenté de 8% depuis le mois de janvier. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait aussi des hausses marquées pour le prix du porc, du bœuf, de même que le prix des céréales. Alors, attendez-vous à voir, justement, des phénomènes semblables. Et chez nous, on n'est pas exempt de ça. La Montérégie, qui est l'espèce de jardin maraîcher du Québec, a reçu la moitié moins d'eau que la normale entre le 1er mai et le 30 juin. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir là aussi une rareté qui va entraîner des prix à la hausse. C'est ce qu'on lit dans le Journal de Montréal ce matin. Donc, la financière agricole et son programme d'assurance récolte a déjà reçu 3800 avis de dommages cette année. L'an passé, c'était déjà élevé, puis on en avait reçu 2100. Alors, vous pouvez voir qu'on est en hausse et ça, bien, c'est amené par les différentes conditions météo de plus en plus difficiles. Bon, à part ça, mais ça, c'est intéressant. Vous savez que, bon, on parle beaucoup des élections à Montréal parce que c'est la grande ville, mais il y a aussi une autre grande ville sur la rive sud qui s'appelle Longueuil. Et là, il y a une bataille assez sévère à Longueuil pour la mairie. Il y a quatre candidats, notamment, qui s'affrontent. Je peux vous les nommer, vous les connaissez, bien sûr. Il y a Jacques Létourneau, l'ancien président de la CSN. Catherine Fournier, députée ancienne députée du Parti québécois qui est maintenant indépendante pour Coalition Longueuil. José Latendresse pour Longueuil Ensemble et Jean-Marc Léveillé qui est pour Longueuil Citoyen. Alors, vous pouvez être sûr que le prochain maire va baisser son salaire. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Est-ce qu'ils vont le faire? Mais en tout cas, c'est dans les promesses électorales. La bataille s'annonce vive là-bas. Faut comprendre que la mairesse actuelle de Longueuil gagne 250 000 $ par année. C'est Sylvie Parent, là-bas, qui est la mairesse sortante. Les candidats ont dit ça n'a pas de bon sens que la mairesse de Longueuil gagne plus cher que le premier ministre François Legault qui gagne 205 793 $ ou encore Valérie Plante, la mairesse de Montréal qui gagne 180 000. Alors les quatre candidats se sont engagés à abaisser le salaire du maire ou de la mairesse, prochaine mairesse de Longueuil. Le salaire est indécent, estime José Latendresse, qui est chef du parti Longueuil Ensemble. Être maire ou mairesse, ce n'est pas une job, c'est une fonction. Donc, on va vouloir abaisser le salaire là-bas. Alors, c'est assez étrange, effectivement, de voir ça aussi élevé. On a beaucoup parlé aussi des transformations dans l'industrie automobile avec l'arrivée de plus en plus importante de règles qui vont obliger les constructeurs à présenter des véhicules électriques. Et on veut se tourner vers le total électrique d'ici 2030, notamment au Québec. Le constructeur allemand Mercedes va aller de l'avant, va passer en fait au tout électrique d'ici 2030. C'est ce qu'il a annoncé hier. Et pour y parvenir, on va investir 59 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Pourquoi? Ben parce que, évidemment, si on tourne à l'électrique, ça va prendre des facilités pour construire des batteries, entre autres, parce que les voitures électriques, ça marche à batterie. Alors, le fabricant de Mercedes va ouvrir 8 usines de cellules de batterie, la composante clé des modèles électriques, un peu partout à travers le monde. On n'a pas indiqué à quel endroit on allait le faire, mais les investissements dans cette technologie vont représenter près de 60 milliards de dollars et on va délaisser de plus en plus ce qu'on appelle les technologies thermiques et hybrides. Thermiques, là, c'est les moteurs à essence, il faut comprendre. On va baisser les investissements d'ici 2026 de 80 %. Alors, vous pouvez comprendre là, que l'avenir dans l'industrie automobile n'est pas dans les moteurs à essence. À peu près tous les grands constructeurs s'en détachent de plus en plus et réduisent leurs investissements dans l'amélioration des moteurs à essence. Mercedes s'attend désormais à une part de voitures hybrides et électriques parmi les ventes mondiales d'au moins 50 % en 2025. Selon Mercedes, la moitié des voitures vendues par Mercedes en 2025 seront électriques, contre 25 % présentement. Alors, ce sera quand même une révolution encore dans le monde de l'automobile. Et on va terminer avec le premier ministre Justin Trudeau qui a réitéré hier qu'il voulait mettre un terme à la politique de la division en reconnaissant au passage, comme il l'avait fait pour l'antisémitisme, que l'islamophobie gagne du terrain au Canada et partout dans le monde. Il participait à une conférence sur justement ce thème-là hier, une conférence qui était virtuelle. Et il a dit l'islamophobie, n'a pas sa place au Canada. Et donc, il veut y mettre un terme. Ultimement, la politique de la division ne peut pas s'enraciner si nous refusons d'être divisés. Et la haine ne peut s'intégrer si nous nous élevons contre elle, a dit Justin Trudeau hier.